Chapitre 8. Avant de trouver quoi que ce soit à sauver, le diacre, J.C. et moi découvrîmes les corps de deux autres Sherpas. Cette fois, les Allemands ne les avaient pas mutilés à coups de couteau, de râteau aiguisé ou quel que soit l'outil qu'ils avaient utilisé au camp de base pour simuler une attaque de Yeti. Tous les Sherpas que nous vîmes à la lueur des flammes qui brûlaient encore avaient été tués par balles. Par plusieurs balles pour la plupart. Quelques-uns en avaient même été criblés, visés à bout portant par des pistolets mitrailleurs. Semchumbi avait manifestement tenté de s'enfuir vers l'est et reçu une balle dans le dos derrière les tentes Whimper incendiées. Le revolver n'était pas sur lui, ni à côté. Nous ignorions s'il s'en était servi avant de mourir. L'arme, en tout cas, avait disparu. Plutôt que de passer par la forêt de pénitents qu'avaient emprunté les Allemands après leur dernier accès de folie meurtrière, nous prîmes un chemin plus difficile par le nord, en montant presque jusqu'au mur de glace, puis en faisant le tour par la base du Changtse. Le diacre avait deviné juste. Les Allemands n'avaient pas repéré notre dernière cache, couverte de neige, à environ 40 mètres du camp. Nous glissâmes, lui et moi, sous la bâche, puis allumâmes nos lampes frontales pour faire l'inventaire, tandis que Jean-Claude montait la garde à l'extérieur. Nous eûmes de la chance. Il y avait 6 sacs à dos et un tas d'autres besaces dans la cache, un poêle Primus, 2 réchauds Una et 12 tablettes de méta. Nous chargeâmes le Primus et le reste dans un sac à dos vide, bien que nous ayons découvert dans la douleur qu'il ne fonctionnait pas bien à très haute altitude, mais ça valait le coup de porter ce poids supplémentaire pour avoir une meilleure chance de faire fondre de la neige. À ce moment-là, je ne voyais toujours pas de raison de remonter au col nord. Il me semblait beaucoup plus judicieux de nous diriger vers le nord et l'est jusqu'au Lap Kala, l'endroit où le diacre avait fini par conduire Mallory en 1921 pour découvrir la voie d'approche évidente par le glacier du Rongpuk Est. Si nous réussissions à éviter ces tueurs allemands avant d'atteindre le Lap Kala, nous pourrions ensuite partir vers l'est le long du glacier de Karta, que l'expédition de 1921 avait soigneusement cartographié, puis grimper jusqu'au Karpola à 6000 mètres d'altitude, avant de redescendre par le nord du Tibet, en tournant tout de suite vers l'est pour éviter le glacier de Kangchung qui menait au pied de l'arête nord-est, presque verticale sur sa face sud. Certes, le Karpola était un col dangereux à passer, avec ses blizzards soudains, ses vents terribles et ses chutes de neige estivales, raison pour laquelle les expéditions anglaises ne l'avaient pas emprunté pour venir dans la région de l'Everest. Mais il m'apparaissait maintenant comme une bonne et rapide issue de secours. Et je voulais désespérément trouver une issue à proposer à mes camarades. Je ne doutais pas de réussir à convaincre Reggie et le diacre, quels que soient les faits qu'ils n'avaient pas encore partagés avec nous. Le fait essentiel, c'était que ces hommes armés qui avaient assassiné presque tous nos Sherpas étaient maintenant à nos trousses. Une autre possibilité, moins ardue mais nécessitant une plus longue marche au Tibet, consisterait à attendre l'aube, puis à escalader assez haut sur l'épaulement du glacier du Rongbuk Est, jusqu'à ce qu'on puisse couper à l'est pour franchir le Lap Kala, puis suivre le grand mur que forme l'Himalaya sur quelques kilomètres, avant de passer par le Serpola pour redescendre dans la verdoyante vallée de la Tista, puis à Gangtok et ensuite droit sur Darjeeling. Ce serait une sacrée randonnée, je n'étais pas sûr qu'un homme blanc l'eût jamais effectuée. Mais c'était forcément moins dangereux qu'un face-à-face avec des tueurs fous équipés d'armes automatiques. Il restait une dernière possibilité, quoique un peu hasardeuse. Le col Lola, à l'ouest, était le plus proche, juste derrière le Changtse qui jouxtait notre glacier du Rongbuk Est. Cela nécessiterait une longue traversée latérale autour du Changtse, une descente de difficultés inconnues, puis une nouvelle ascension assez raide pour gagner le Lola, tout ça pour finir dans une prison népalaise où nous risquions de croupir pendant des années pour être entrés dans le pays sans autorisation. Le Népal ne donnait jamais d'autorisation d'entrée à des étrangers, Cathay Owings étant la seule exception à ma connaissance. Mais cet Owings était un ami du diacre, il pourrait peut-être nous aider. Je plaiderais donc pour qu'on affronte le mauvais temps du Karpola, ou pour la sécurité relative d'une longue randonnée par le Serpola, les deux itinéraires se trouvant à l'est du charnier qu'était devenu notre camp de base. Là-dessus, je fouillais notre cache avec détermination et remplis chaque sac à dos vide que je trouvais. Des tentes incendiées ne restaient que des braises quand nous repartîmes par le même chemin qu'à l'aller, afin de rejoindre Pasang et Reggie. À mi-parcours, le diacre nous dit « Lâchez les sacs ici ». Ça n'avait pas de sens. Nous nous trouvions près du mur de glace menant au col où nous avions accroché des cordes fixes et, beaucoup plus haut, l'échelle de spéléologue. Mais il n'était pas question que je monte par ces cordes ou cette échelle, même si les Allemands surgissaient à notre poursuite. C'était une impasse. Grimper au col nord reviendrait à signer notre arrêt de mort. Il n'y avait pas d'issue là-haut, puisque le côté sud était un précipice de plusieurs milliers de mètres jusqu'à une vallée profonde derrière le Changtse. Et monter plus haut, sur l'Everest ou le Changtse, qui n'avait jamais été gravi, bien qu'il culminât seulement à 7582 mètres, moins que notre camp 4, revenait à reculer l'inéluctable. Je voulus protester, mais le diacre ne m'en laissa pas le temps. « Faites-moi confiance, Jake, » dit-il. « Laissez les sacs ici. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. » Nos 30 Sherpas vous faisaient confiance, capitaine Deacon, et ils sont tous morts, faillis-je rétorquer. Tel était mon degré de fatigue. Mais je ne le dis pas. Et grâce à ce silence, notre amitié, si c'était bien cela qui nous liait, et j'ai eu 65 ans pour décider que oui, fut préservée. Et puis le diacre, le capitaine Richard Davis Deacon, qui avait donné des milliers d'ordres à ses hommes durant les 4 ans de la pire guerre que le monde eût jamais connue, venait de me dire « s'il vous plaît ». Taisant tous mes arguments logiques en faveur d'une retraite par l'école, je laissai tomber mes charges dans la neige et nous repartîmes en pataugeant dans la neige pour retrouver Pasang et Reggie. Au camp 4 bis, ainsi que nous l'appelâmes, assis en cercle sur nos sacs à dos pour éviter de nous geler les fesses, nous tentâmes de faire le point. Bien que le diacre nous eût ordonné d'inhaler de l'air anglais au plus fort débit pendant 3 minutes, il chronométra avec sa montre, nos voix parurent traînantes, ivres ou simplement stupides. Nous avions tous dépassé les limites de l'épuisement total. Le simple fait d'essayer de former des mots dans ma tête me rappela un film d'actualité que j'avais vu dans un cinéma anglais, montrant des pilotes de la RAF obligés de résoudre des problèmes mathématiques dans une chambre barométrique à basse pression, comme s'ils étaient dans un avion prenant de l'altitude, une altitude à laquelle nous nous trouvions depuis 72 heures. Tous les pilotes avaient non seulement arrêté les calculs, mais piqué du nez sur leur bureau. La différence, c'est qu'il se trouvait sous la surveillance de médecins et de scientifiques, prêts à remonter la pression dans la chambre hermétique à l'instant où il tournait de l'œil. Hors de notre chambre barométrique, nous n'avions que l'espace extérieur ou un peloton d'exécution de Fritz Fou. Je ronflais doucement, tête baissée, quand le diacre me secoua pour me réveiller. J.C. était en train de parler.
« Jake avait raison, mes amis. À moins qu'il y ait quelque chose que nous ignorons, la seule solution raisonnable est de quitter cette vallée maudite demain, à la première heure, et de grimper le col le plus proche vers le Tibet ou le Népal. Comme je tiens presque autant à ma liberté qu'à ma vie, je suggère que nous passions par le Karpola ou le Serpola pour rejoindre le Tibet. Le Népal n'est pas tendre avec les intrus. Il y a effectivement des choses que vous ignorez, mon ami,
dit Reggie.
Richard ne connaît peut-être pas les détails précis, mais je crois qu'il en a deviné certains. Difficile à dire. Pasang est au courant dans les grandes lignes.
De quoi parlez-vous, bon sang ?
Réussis-je à m'exclamer.
De la raison pour laquelle... « Nous devons monter au col nord ce soir, » répondit le diacre.
« C'est ridicule !»
bredouillai-je.
« Je suis trop fatigué pour grimper ailleurs que dans un sac de couchage. »
Nous avions récupéré 5 autres sacs en duvet dans la cache au camp 3. Ils étaient restés accrochés au sac à dos que nous avions bêtement laissé dans la neige à des centaines de mètres d'ici, au pied du mur de glace.
« Je pense aussi que nous devrions monter au col nord ce soir, Monsieur Perry, »
dit Pasang.
« Permettez à Lady Bromley-Montfort et au capitaine Deacon de s'expliquer. »
Reggie tourna son visage fatigué vers l'ancien capitaine d'infanterie.
Vous voulez expliquer, Richard ?
Je ne suis pas sûr d'en savoir assez,
répondit-il d'une voix paraissant aussi lasse que la mienne.
Enfin, je connais le qui, le quand et le pourquoi, mais je ne suis pas certain du quoi.
Mais vous avez admis connaître, et peut-être travailler pour, notre ami qui signe des chèques mais préfère l'or,
dit Reggie. J'ai une idée de ce qu'il cherche à faire.
Oui,
admit le diacre.
Je ne travaille pour lui,
avec lui, que de temps en temps.
Merde alors, ça vous ennuierait de parler anglais tous les deux ?
Dis-je d'un ton un peu plus brusque que je ne l'aurais voulu. Reggie hocha la tête.
Mon cousin Percival, vous l'avez tous entendu dire, je présume, avait la réputation d'être un bon à rien, une déception pour sa famille. Un déshonneur pour son pays durant la guerre, il ne s'est pas engagé, il n'a jamais combattu, et il a passé toute la durée du conflit en Suisse, ou dans d'autres endroits protégés, comme sa mère avait honte de l'admettre. Les régions paisibles d'Autriche. Mon cousin Percy semblait bien près d'être un traître à la Grande-Bretagne. Et pour couronner le tout, il passait pour un débauché aussi bien en Angleterre que sur le continent. Et un inverti. Un homosexuel, pour utiliser ce nouveau mot.
Comme il n'y avait rien à dire, nous restâmes silencieux.
Tout cela était faux,
reprit Reggie.
C'était une couverture, fabriquée, délibérément.
Je regardais le diacre en quête d'une explication au discours de Reggie, un cas sévère de lassitude des montagnes peut-être, accompagné de délire. Mais ses yeux gris restèrent braqués sur elle.
Mon cousin Percy était un agent du renseignement avant, pendant et après la guerre,
assena-t-elle.
D'abord pour les services secrets de Sa Majesté, puis pour le service de renseignement de la marine britannique, et enfin pour... Eh bien... pour un réseau dirigé par un membre... très haut placé de notre gouvernement.
Percy était un putain d'espion !
M'écriai-je, trop fatigué pour surveiller mon langage.
Oui,
dit Reggie.
Et le jeune Kurt Meyer, qui n'était pas un alpiniste, était l'un de ses contacts autrichiens les plus précieux. 8 mois avant qu'il se retrouve dans le village tibétain de Tingri, au nord-est d'ici, Meyer avait été contraint de fuir l'Autriche. Il était parti par l'Est et avait continué dans cette direction jusqu'à ce qu'il arrive en Chine et enfin au Tibet. Une très longue fuite,
fit remarquer Jean-Claude.
Il avait une meute d'Allemands à ses trousses. Vous avez vu ce soir de quoi ces monstres sont capables.
Qu'avait donc Meyer en sa possession que les Allemands voulaient tant récupérer ?
Demanda le diacre.
C'est une des pièces du puzzle qui me manque.
Je l'ignore,
dit Reggie.
Tout ce que je sais, c'est que l'avenir de nos pays, la France autant que la Grande-Bretagne, Jean-Claude, en dépend peut-être.
Ce qui, apparemment, nous exclut, les États-Unis et moi, dis-je. Il y avait presque de la colère dans ma voix. Reggie me regarda.
C'est vrai, Jake. Et je suis désolé que vous ayez été embarqué dans cette histoire. Et je ne savais pas comment vous empêcher de venir avec vos amis anglais et français. Quoi que nous fassions ensuite, du moins pour ceux qui m'accompagneront, je crois que vous devriez redescendre la vallée glaciaire vers le sud-est et repartir en Inde par le Sherpola. Des deux cols orientaux, c'est le plus sûr et le plus direct. Avec de la chance et en voyageant léger, Vous pouvez être à Darjeeling en 3 semaines. »
J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit.
« Les Allemands ne vous poursuivront pas, Jake. Vous ne les intéressez pas. Ils sont venus ici pour la 2e année consécutive parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer ce que détenait Kurt Meyer et qu'il a donné à mon cousin Percy. Ils pensent qu'il y a une infime chance que nous l'ayons trouvé ou qu'ils pourront mettre la main dessus dans la montagne.
Ils ont tué 30 Sherpas, 30 hommes,
dis-je, sciant pour chasser des larmes de colère et de frustration.
Pour récupérer quoi? Les plans d'un cuirassé? D'une mitrailleuse de bombardier plus efficace ou je ne sais quelle connerie de ce genre?
Reggie secoua la tête.
Ces Allemands, quel que soit leur nombre, je suis convaincu qu'ils n'étaient que 7 l'année dernière sous le commandement de Bruno Siegel, et qu'ils ont vraiment assisté à la chute de Percy et de Meyer quelque part sur cette montagne, voire qu'ils l'ont provoqué. N'ont pas pu récupérer la chose que Meyer voulait remettre entre des mains anglaises, dans les mains de l'agent anglais qu'était mon cousin. Souvenez-vous seulement que ces types ne représentent pas la République de Weimar. Ils ne représentent pas l'Allemagne. Du moins pas encore. Mais ce sera peut-être le cas un jour. Tous ces monstres qui suivent ce monstre nommé Hitler. Or, ce que Meyer voulait confier à Percy était de nature à leur nuire. À nuire à leur chef. Et c'est tout ce qui m'importe.
J'étais trop fatigué pour suivre.
Tout ce que je sais, dis-je, c'est que si nous remontons sur le col Nord, nous sommes coincés, faits comme des rats. Même s'ils ne sont que 4 ou 5, ils ont des armes, pas nous. Ils ont des fusils. Quelle est la portée de votre Lee Enfield, Richard?
Sa portée utile approche les 500 mètres. La portée maximale est de 900 mètres.
Presque 1 kilomètre, dis-je.
Oui, mais pas très précis à cette distance. J'ignorais sa remarque.
Assez précis pour qu'ils nous descendent sur le col Nord et même la partie basse de l'arête Nord-Est, sans que le tireur ait besoin de grimper au col.
Le diacre haussa les épaules. Probablement. Tout dépend du vent et des conditions météo.
Eh bien, ces foutus vents et ces conditions météo ne nous ont pas été très favorables jusqu'ici,
m'écriai-je. Personne ne répondit. Finalement, Jean-Claude dit à Reggie,
« Je suis d'accord avec Jake. Ce serait de la folie de sacrifier nos vies pour les plans d'une mitrailleuse ou d'un navire que d'autres espions voleront de toute façon tôt ou tard. En plus, nous ne sommes pas en guerre avec l'Allemagne. J'ai déjà perdu 3 frères, 2 oncles et 5 cousins dans le combat contre les Boches, Reggie. Il faudrait que vous m'assuriez que ce que ce Meyer a volé aux Allemands ou aux Autrichiens est d'abord unique, irremplaçable, et ensuite que la survie de mon pays et du vôtre en dépend. »
Reggie poussa un profond soupir. Ce fut la seule fois où je la vis au bord des larmes.
Pour le 2e point, je ne peux pas en être sûr, Jean-Claude. Mais je peux vous garantir que cette chose que Meyer a mis presque 1 an à essayer de transmettre à mon cousin est unique. Ça, au moins, Percival me l'a assuré avant de partir au-devant de sa mort tragique l'année dernière. Ce n'était rien d'aussi banal que des plans pour une nouvelle mitrailleuse ou une nouvelle bombe.
Percy vous a avoué qu'il était un espion, dis-je.
Je ne savais pas si c'était ou non une question. Reggie esquissa un léger sourire.
Je le savais depuis des années, Jake. Percy m'aimait énormément. Je vous ai déjà dit que nous nous considérions plus comme des frères et sœurs que des cousins. Nous jouions ensemble, enfant. Et nous avons plus tard grimpé ensemble dans les Alpes et sur les contreforts de l'Himalaya. Il ne pouvait pas me laisser penser qu'il était un traître à l'Angleterre. Pas plus d'ailleurs qu'un débauché. Vous n'avez aucune idée de ce que Meyer a transporté à travers toute l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et même la Chine, jusqu'au Tibet, insistai-je. Cette chose était suffisamment importante pour que votre cousin soit prêt à donner sa vie pour elle. Mais vous ignorez ce que c'est.
Non. Je sais seulement que c'était facile à transporter, dit Reggie. C'est tout ce que Percy a consenti à me révéler. Il était censé être revenu à Darjeeling en juillet. Sir John Henry Kerr, le gouverneur du Bengale par intérim, et Sir Henry Rawlinson, le commandant en chef à la tête des services de renseignement britanniques en Inde, ont tous deux été informés par Londres. Du moins savent-ils que Percy essayait de récupérer une chose de la plus haute importance. Et ils attendent encore que je les contacte.
Je ne comprends pas, dis-je. Pourquoi choisir les pentes de l'Everest pour procéder à un tel échange? C'est dingue! Il n'y a pas d'issue une fois qu'on est en haut.
Reggie me regarda.
Percy et Meyer n'ont pas choisi l'Everest, Jake. Ils se sont retrouvés à Tingritzong. Mais Bruno Siegel et ses hommes de main n'étaient pas loin derrière Meyer. À la fin, Percy a dû emprunter l'échelle laissée par l'expédition de Mallory pour monter d'abord sur le col Nord, et ensuite, d'après Camille Shearing, beaucoup plus haut, peut-être même jusqu'à l'arête Nord-Est. Il a dû prier pour que les Allemands ne puissent pas escalader aussi haut. Peut-être pensait-il qu'avec les caches de nourriture que l'expédition Mallory Norton avait laissées derrière elle, il pouvait attendre que les Allemands repartent, ou s'échapper pendant les tempêtes de mousson qui n'allaient pas tarder à éclater. Percy s'est trompé. Siegel avait dû se faire accompagner par de très bons alpinistes allemands. Tous des fanatiques politiques. Et ils sont de retour.
Le silence retomba, rompu seulement par le bruit étouffé du vent passant entre les murs de glace autour de nous. Enfin, le diacre demanda à Reggie. Vous êtes prête à risquer, même sacrifier, votre vie pour récupérer ce pourquoi votre cousin Percy est mort?
Oui.
Je grimperai au col Nord avec vous ce soir, dit-il d'un ton neutre. Nous poursuivrons l'ascension jusqu'à ce que nous retrouvions Percy ou... Il s'arrêta, mais nous savions tous ce qui suivait.
Je viens aussi, déclara Jean-Claude. Je hais ces saloperies de Bosch. Et elle me plairait davantage que de les narguer.
Avant que j'aie pu parler, Reggie dit
« Je suis sérieuse, Jake, quand je vous suggère de repartir à Darjeeling. En tant qu'Américain, vous êtes neutre dans toute cette histoire. »
« Vous voulez rire ? » m'écriai-je. « Lafayette, nous sommes là. La bataille du Bois Belleau. La bataille de Contigny. La deuxième bataille de la Marne. La bataille de Château-Thierry, l'offensive Meuse-Argonne,
J'étais si fatigué que je me retrouvais à court de bataille américaine.
Tippecano et Tyler également, ajoutai-je bien qu'elle n'ait aucun rapport. Mais ça sonnait bien dans ma tête bourdonnante.
Je viens avec vous, les gars,
ajoutai-je. Essayez de m'en empêcher.
Personne ne dit quoi que ce soit, ni ne me tapa dans le dos. Peut-être étions-nous tous trop fatigués.
Une chose, dit Jean-Claude. Pensez-vous qu'il nous reste assez d'énergie pour escalader ce mur de neige de 300 mètres et l'échelle de corde jusqu'au col Nord, puis traverser le col jusqu'au camp 4 ce soir?
Nous le découvrirons assez tôt, répondit le diacre. Très loin derrière et en dessous de nous, quelque part dans la forêt de sérac, de pénitents et de pinacles de glace de 20 mètres de haut, trois coups de feu retentirent. Puis le silence.